quand je joue maintenant du Bach, il faut penser à la chose suivante. C'est de la musique baroque, n'est-ce pas? Et la musique baroque en général, et en particulier chez Bach, était une musique où l'idéal était de refléter l'ordre dans la création. N'est-ce pas? C'était l'époque où on a fait les grandes découvertes scientifiques dans l'univers. Alors on était tellement sous l'impression de la grandeur du Créateur que la musique devait refléter cet ordre. C'est pour ça qu'on a, par exemple, écrit plusieurs voix qui sont superposées, que chaque voix a une individualité, ça donne une harmonie parfaite. C'est jusqu'à la dernière note. Et on peut dire que cette musique est une musique créationniste. L'Union européenne, intitulée par Mediterranean Desertification and Land Use, de Brandt et Thorms, 1996. Et là, ils expliquent le danger de la dégradation et de la désertification du sol est énorme dans un tel climat, dans les régions méditerranéennes, particulièrement en raison de fausses décisions prise par la société humaine dans son usage du sol. Et dans ce contexte-là, nous allons considérer le point 18 où Moïse, sous l'inspiration de Dieu, a donné au peuple d'Israël des commandements concernant l'agriculture au pays d'Israël, au pays de la promesse. Donc après l'exode de l'Égypte, avant d'entrer au pays de la promesse. Et vous savez, Israël fait partie donc des pays de la région méditerranéenne. Notre point 18, j'ai intitulé par « Ne pas mélanger des plantes différentes ». Lévitique 19:19. « Vous garderez mes statuts. Tu ne sèmeras pas ton champ de deux espèces de semences. » Deutéronome 22, verset 9. « Tu ne sèmeras pas ta vigne de deux espèces de semences. » Aujourd'hui, nous savons que des plantes pluriannuelles, comme par exemple le cèpe, les oliviers, et des plantes annuelles, comme les grains, ne doivent jamais être mélangées dans le même champ pour éviter de déminéraliser le sol. Donc à l'époque, on n'a pas pu comprendre. Il fallait simplement obéir, puisque Dieu l'a dit, et c'est mieux. Point 19, trois années de repos. Moïse écrit en Lévitique 19, 23, « Et quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres dont on mange, vous en regarderez le fruit comme incirconcis. » Cela veut dire comme impur, il ne faut pas manger. « Il sera incirconcis pour vous pendant trois ans. On n'en mangera point. » On n'a pu comprendre à l'époque. Il a 3600 ans. On aurait pu dire, oui, mais Dieu, il ne prend pas plaisir de nous donner la joie de manger ses fruits. Pendant trois ans, il faut renoncer. Eh bien, aujourd'hui, nous savons, la masse biologique constituée par les fruits est rendue au système écologique, par ces commandements, pendant trois ans. La conséquence est donc formation d'humus. La conséquence de la formation d'humus est une plus grande réserve d'eau dans le sol. Et avec ça, l'arbre devient grand et stable. Et la conséquence, on aura finalement des moissons plus grandes. 20e point, année sabbatique. Moïse a expliqué, on peut labourer le sol pendant 6 ans, mais il faut observer une 7e année. N'est-ce pas? En Israël, on comptait avec des cycles de 7 ans dès l'Exode. La 7e année est donc une année où il ne faut pas travailler le sol. Une année de repos pour le sol. Exode 23, verset 10. Pendant 6 années, tu sèmeras la terre et tu en recueilleras le rapport. Et la 7e, tu la laisseras en jachère et tu la laisseras inculte. Et les indigents de ton peuple en mangeront, et ceux qui laisseront de reste, des bêtes, des champs, le mangeront. Tu en feras de même pour ta vigne et pour ton olivier. En plus, On a encore un commandement en Lévitique 25 concernant l'année de jubilé. Cela veut dire après 7 fois 7 ans, il fallait observer donc la 50e année de nouveau comme une année sabbatique. Mais avec l'effet que là, il y avait 2 ans successifs sans agriculture, il fallait un peu de la foi, n'est-ce pas, pour croire qu'on ne va pas mourir de faim. Mais il fallait simplement obéir. Aujourd'hui, nous comprenons, bien sûr, cela amène à une régénération du sol. Et par ça, on forme une couche de terre mêlée de végétaux. Vous voyez, à l'époque de Charlemagne, Moyen-Âge, ici en Europe, les moissons étaient 60% de plus que la quantité qui avait été semée. Ce n'est pas énorme. N'est-ce pas? Si on a semé 1 kg de semences, par la moisson, on avait eu 1,6 kg. En Europe, au début du 19e siècle, c'était déjà mieux. Donc la moisson était 300% plus que la quantité qu'on a semée. Par l'archéologie, nous savons aujourd'hui au Negev. C'est la région désertique du sud d'Israël. Au Negev du nord, on avait dans l'Antiquité donc des moissons de 600%. Je ne parle pas de la région vraiment fructueuse d'Israël, en Galilée et dans la plaine de Charonne et autres. 600% là au sud, vers le désert. Pour de grandes parties de l'Europe, c'était même pas le cas au XXe siècle. Point 21. Les ruminants ayant l'angle fendu. N'est-ce pas, j'ai déjà un peu parlé de ce sujet-là, en rapport avec le lapin. Lévitique 11. Je lis à partir du verset 2. Parlez aux fils d'Israël en disant, « Ce sont ici les animaux dont vous mangerez d'entre toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez d'entre les bêtes qui ruminent, tout ce qui a l'angle fendu et le pied complètement divisé. Seulement de ceux-ci, vous ne mangerez pas. D'entre celles qui ruminent et d'entre celles qui ont l'angle fendu, le chameau, car il rumine, mais il n'a pas l'angle fendu, il vous est impur. Et le damon, car il rumine, mais il n'a pas l'angle fendu, il vous est impur. Et le lièvre, car il rumine, mais il n'a pas l'angle fendu, il vous est impur. Et le porc, car il a l'angle fendu et le pied complètement divisé, mais il ne ruine nullement, il vous est impur. » Aujourd'hui, nous savons que justement les ruminants qui ont l'angle fendu, ce sont des animaux qui possèdent un panse, comme les vaches, les moutons, les chèvres. Et avec ça, ils possèdent dans leur ventre une flore riche de bactéries qui sont capables de décomposer les herbes les plus dures. Vous voyez, mon fils, lorsqu'il était encore mon dernier fils, numéro 6, il a maintenant 8 ans, donc il a grandi entre deux, mais il avait une époque où il aimait jouer une vache et manger de l'herbe dans le jardin. J'ai dû lui expliquer, mais tu sais, nous ne sommes pas de vaches, il faut manger de la salade, n'est-ce pas? Il ne faut pas manger de l'herbe. Justement parce qu'il n'a pas un panse avec cette riche flore de bactéries qui serait capable de décomposer les herbes les plus dures, comme au jardin. Et voilà, alors pour les vaches, les chèvres, etc., on peut dire, quand on garde ces animaux pour pouvoir les manger la viande, c'est tellement intelligent. Parce qu'ils sont capables de vivre par une nourriture qui est sans utilité pour l'être humain. Et cela est important quand les ressources sont limitées. Par exemple, les cochons. Il y a toujours encore aujourd'hui des hommes qui croient que les cochons peuvent manger n'importe quoi. C'est pas vrai. Les cochons aiment manger ce que les hommes aiment. Entrecôtes. Tout qui est bon, n'est-ce pas? Alors les cochons réclament pour eux la même nourriture que l'être humain. Donc en fait, ce n'est pas intelligent d'avoir des animaux qui aiment manger la même chose comme les êtres humains. C'est mieux d'avoir des animaux qui mangent autre chose. Ce que mon petit garçon ne peut pas manger, ou ne devrait pas manger. En plus, on a réalisé, par la science moderne, que les ruminants ayant l'angle fendu, comme bœuf, mouton, chevreuil, cerf, sont moins en danger d'attraper des agents pathogènes que, par exemple, les cochons. Bien sûr, là, avec cette nouvelle maladie qui est devenue un problème pour nous en rapport avec les vaches, donc la folie, cette folie, pas par une raison naturelle, c'est la folie de l'homme. On a donné aux vaches, donc, des vaches à manger. N'est-ce pas? On a donné de la viande, de la nourriture. Les vaches ont dû manger des vaches, mais même les petits-enfants savent que les vaches ne mangent pas les vaches, ils aiment manger de l'herbe. Une folie. Et cette folie a apporté donc un grand problème pour nous en rapport avec la viande de bœuf. Mais faisons abstraction de ça, c'est une vérité que justement les ruminants ayant l'angle fendu sont moins en danger d'attraper des agents pathogènes, par exemple, que les cochons. Et chaque personne qui sait faire la cuisine est donc instruite de cuire plus, par exemple, la viande du cochon que la viande du bœuf. Pourquoi? Parce que le danger de pathogène est beaucoup plus grand dans cette viande de cochon. Et voilà, une nourriture saine, sans pathogène, est particulièrement importante dans des régions chaudes comme le Proche-Orient. Vous voyez, ces commandements ne sont pas donnés dans la Bible pour le monde entier, mais pour Israël, qui devait vivre dans la Méditerranée. Point 22. Des poissons, mais pas des grenouilles. Je continue en Lévitique 11 avec la biologie biblique. Verset 9. Vous mangerez de ceci, d'entre tout ce qui est dans les eaux. Voilà, jusqu'alors, on a lu concernant les mammifères, maintenant les poissons. Vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, dans les mers et dans les rivières. Et tout ce qui n'a point de nageoires et d'écailles dans les mers et dans les rivières, de tout ce qui fourmille dans les eaux, et tout être vivant qui est dans les eaux, vous sera une chose abominable. Il ne faut pas manger. Cela vous sera une chose abominable. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Eh bien, avec ça, c'était clair, il ne faut pas manger, par exemple, des grenouilles. Il faut vraiment manger des poissons qui ont des nageoires et des écailles, mais pas, par exemple, des grenouilles. Et cela est donc une protection, ou on peut dire la protection la plus efficace contre la malaria. N'est-ce pas, quand on ne mange pas les grenouilles et les amphibiens en général, ces animaux peuvent se multiplier librement. Et ils mangent donc les moustiques qui ont donc les pathogènes de la malaria et ainsi l'homme est protégé. Un exemple moderne du Bangladesh. Depuis environ 1975, on a commencé à exporter de cuisses de grenouilles pour, excusez-moi, pour la France. Oui, parce qu'on aimait ça ici. Mais depuis, on a une plaie de malaria en Bangladesh. Même dans des régions qui traditionnellement ne connaissaient pas la malaria. Pour ce pays, c'était bien de pouvoir faire de l'exportation, n'est-ce pas, pour gagner au moins un peu d'argent, ce pauvre pays. Maintenant, c'est encore pire avec la malaria. Alors, vous voyez, la malaria était aussi un problème au pays d'Israël. Et